Philippe Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez sorti, c'est le 20e roman historique. Alors, avec celui-ci, on va aller faire un petit tour du côté de Venise. Venise, à la grande époque de Venise, enfin, dans les années 1660. Donc, avec un petit tour du côté de Murano et des grands verriers de l'époque.
Tout à fait, d'abord, c'est un roman historique, mais c'est aussi un roman purement d'espionnage, parce que Louis XIV, qui avait l'ambition d'embellir Versailles, eh bien, avait l'idée d'une grande galerie avec tous des grands miroirs. Et ces grands miroirs, le secret de fabrication de ces grands miroirs était détenu par les Vénitiens et en particulier par les maîtres verriers de Murano, une petite île où on avait transféré à la suite d'un incendie à Venise toute la fabrication des verreries et notamment des grands miroirs. Donc c'est un roman effectivement d'espionnage. Pourtant Venise et la France étaient alliées à l'époque, mais ça n'a pas empêché Louis XIV, avec son âme damnée entre guillemets de Colbert, d'envoyer ses espions à Venise, à la fois pour essayer de ravir le secret de fabrication des grands miroirs qui coûtaient des fortunes à la couronne, ce qui provoquait le déficit commercial de la France.
Ça nous rappelle quelque chose d'actuel d'ailleurs, ça.
Tout à fait, hein, comme quoi rien n'a jamais changé au Royaume de France. La balance commerciale est toujours déficitaire depuis ce 17e siècle. Donc, il envoie ses espions à Venise et à Murano, et pour piquer le secret de fabrication, et surtout pour convaincre des maîtres verriers qui risquaient quand même la mort s'ils trahissaient,
oui, de venir en France,
donc, de venir enseigner le secret des fabrications aux verriers français, moyennant des sommes assez confortables. Et donc, de cette idée tout à fait historique, eh bien, voilà, est né le miroir au mirage, autour d'un personnage qui s'appelle François Gilbert de Soulac, un jeune noble désargenté qui finalement, par la force des choses, est envoyé à Venise et puis vit cette aventure au début assez exaltante et de moins en moins exaltante quand il se retrouve à cause des inquisiteurs qui faisaient la police à Venise, à la prison des plombs. Voilà, donc c'est cette sorte de souffle d'aventure que j'ai essayé de retrouver dans le miroir au mirage.
Souffle d'aventure réel d'ailleurs, parce qu'il lui arrive quand même beaucoup de choses. Il y a eu d'ailleurs des émissaires avant qui, eux, ont nettement moins bien fini, en fait.
J'allais dire, c'est la source de ce profonde de ce roman. Mais en même temps, c'est un roman de cap et d'épée, entre guillemets. C'est un roman où il y a des intrigues, où il y a des trahisons. Et au moment où on s'y attend le moins, où il a renoncé carrément à sa mission parce que les maîtres verriers craignant la mort. Et puis, il n'y a pas que les maîtres verriers, il y a toutes sortes de corporations qui sont liées à la fabrication des grands miroirs. Quand toutes ces portes se ferment devant lui, il y a une sorte de découragement. Il est prêt à rentrer en France, disons-le. Et puis, brusquement, ça se dénoue. Je ne dirais pas pourquoi, parce que ça fait partie du mystère un peu du roman. Ça se dénoue. Et le voilà avec des maîtres verriers. Et surtout, la fille de l'un d'eux, vous voyez où je veux en venir, en route pour la France.
Voilà.
Voilà, donc c'est tout cet itinéraire, en quelque sorte initiatique, qui fait pour moi à la fois la beauté, le suspense et le sel du roman.
Venise qui, en fait, n'a pas tellement changé depuis cette époque-là. Ceux qui ont la chance d'y avoir été retrouvent quand même un peu de cette magie, parce que c'est une ville unique au monde.
C'est un hymne à la beauté éternelle de Venise, à la fascination qu'exerce déjà à l'époque Venise sur toutes les autres cours d'Europe, et c'est un hommage à la fascination qu'exerce toujours Venise aujourd'hui. Venise, dans le fond, c'est une ville, c'est une cité qui est hors du temps. Et encore aujourd'hui, on a l'impression, hormis les Vaporetto, d'être plongé dans une époque hors du temps. Et ça, c'est assez bouleversant. Et j'ai essayé de retrouver, dans le fond, cette essence un peu vénitienne, de cette permanence vénitienne dans le roman. Aussi, effectivement, on est plongé dans l'univers de la peinture, Venise était la cité de la peinture parce que les grandes familles patriciennes du XVIIe siècle, et ça a commencé au XVIe, rivalisaient d'argent, puisaient dans leur fortune pour attirer chez eux les plus grands peintres, les Titien, les Tintoretto et les autres. C'est un hommage à cette peinture vénitienne qui est elle aussi absolument fascinante. Dans le fond, ce que j'ai essayé de rendre, c'est l'atmosphère de l'époque, c'est l'atmosphère de ce Venise, à la fois d'une beauté sublime, avec toutes ces intrigues, tous ces coups de batte. Bref, je pense que c'est vraiment un roman d'aventure, quoi. On est emporté sur les routes, puisqu'on revient aussi en France. Bien sûr. Traverse les Alpes avec François Guilbert de Soulac et la fille du maître verrier. C'est ce souffle de l'aventure qui finalement essaye de donner son rythme au roman.
Si vous avez envie de vous évader un petit peu de la morosité ambiante, hein, de cette époque un peu particulière, et puis ça fait une belle idée cadeau de Noël d'ailleurs, pourquoi pas, hein, donc si vous avez quelqu'un qui ne connaît pas Venise ou qui a été et qui veut garder ce souvenir.
Le roman est aussi une invitation au voyage, donc j'espère que j'ai réussi à rendre un peu de cette beauté, de cette éternité.
Donc c'est un roman qui est édité par De Boré, hein, édition, donc, que l'on trouve bien sûr dans toutes les librairies des pays de Savoie, de l'Ain et de la Suisse romande sans doute, parce que vous étiez d'ailleurs en dédicace il n'y a pas très longtemps à Thonon-les-Bains, donc comme vous faites à chaque fois que vous sortez un roman. Merci donc Philippe Lemaire, et donc rendez-vous si vous avez envie de vous évader dans Le Miroir au Mirage.